הוא היה אומר, עשה רצונו כרצונך, כדי שיעשה רצונך כרצונו. בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. הלל אומר, אל תפרוש מן הציבור, אל תאמן בעצמך עד יום מותך, ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, ואל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע שסופו להישמע, ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמע לא תפנה. Il nous disait, je crois on parle ici de Rabbi Shimon ben Gamliel, il nous disait la chose suivante. Fais en sorte que ta volonté soit identique à la sienne. והיה אומר, עשה רצונו כרצונך, כדי שיעשה רצונך כרצונו. בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. הלל אומר, אל תפרוש מן הציבור, אל תאמן בעצמך עד יום מותך, ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, ואל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע שסופו להישמע. ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמע לא תיפנה. Il nous disait, fais sa volonté comme étant la tienne. En d'autres termes, fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu comme s'il s'agissait de ta volonté. Afin qu'il fasse que ta volonté soit identique à la sienne. Annule ta volonté devant sa volonté, afin qu'il annule la volonté des autres face à ta volonté. Hillel nous disait, ne te sépare pas du public. Ne crois pas en toi jusqu'au jour de ta mort. Ne juge pas ton prochain jusqu'à ce que tu sois à sa place et ne dis pas des choses qu'il est impossible d'entendre parce que à la fin ou que l'on ne doit pas entendre parce qu'à la fin elles peuvent être entendues. Et ne dis pas que lorsque je serai libre, que j'aurai du temps, à ce moment-là j'étudierai parce que peut-être que tu n'auras jamais de temps. Nous avons ici donc, dans ce Pirkei Avot, beaucoup d'enseignements que nous allons essayer d'expliquer l'un d'après l'autre, l'un derrière l'autre. Donc le premier enseignement nous dit la chose suivante. Il faut que l'homme fasse sa volonté, que plutôt l'homme fasse que la volonté d'Hachem soit identique à sa volonté, afin qu'il fasse en sorte que ta volonté soit comme sa volonté. Le Pirkei Avot nous dit ici un enseignement très très important qui est peut-être à la base de toute la Avodat Hashem, de toute la pratique des mitzvot. On sait que la Gemara dans Brachot nous dit que tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, sauf la peur d'Akadosh Baruch Hu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire en vérité que toutes nos réussites, tous nos échecs, tout ce que nous entreprenons dans la vie, tout ce que nous subissons, tout ce que nous voyons, dépend d'Akadosh Baruch Hu. Ainsi que le dit la Gemara dans Hulin, nous ne pouvons pas lever même le petit doigt si Akadosh Baruch Hu ne l'a pas décidé ainsi. Il y a une seule chose, un seul domaine dans lequel la Kadosh Baruch Hu nous a laissé une volonté totale, c'est une liberté totale, c'est dans le pouvoir de décider. Il nous a effectivement laissé un pouvoir de décider si nous voulons tendre vers le bien ou si nous voulons tendre vers le mal. Il nous a donc laissé la possibilité, nous avons donc laissé ou légué une possibilité d'avoir une volonté indépendante de la sienne. Et effectivement, dans la mesure où notre volonté est indépendante de la sienne, c'est elle qui constitue notre être, alors il se peut qu'elle soit aussi différente de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Cela, bien évidemment, dans le cas où nous décidons, Chas v'Shalom, d'aller vers le mal, de ne pas faire les mitzvot. Et que vient nous enseigner ici le Pirkei Avot? Essaye, profite du libre arbitre, utilise le libre arbitre qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné pour faire en sorte que ta volonté soit identique à la sienne. Cela, tu peux le faire. Tu peux aussi en décider autrement, mais le but est de faire en sorte que ta volonté soit complètement identique à la sienne. Et à ce moment-là, nous dit le Pirkei Avot, si ta volonté devient identique à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu fera en sorte que lui aussi sa volonté soit identique à la tienne. Autrement dit, si tu vas vers Akadosh Baruch Hu, et alors Akadosh Baruch Hu fera en sorte que tout ce que tu désires, dans le domaine, dans, bien entendu à condition que ce soit légitime, tout ce que tu désires, tout ce vers quoi tu tends et tout ce que tu demandes, alors Akadosh Baruch Hu y accédera. Il y aura donc ici une sorte de fusion qui s'établira entre notre volonté propre et celle d'Akadosh Baruch Hu. Nous ferons ce qu'il demande et à ce moment-là, lui fera ce que nous demandons. Rabbi Nouyona nous donne ici un exemple qui illustre très très bien ce principe. Un homme, par exemple, l'un de ses premiers désirs, certainement, est de pourvoir à ses besoins, d'avoir ce qu'il faut pour pouvoir manger, nourrir sa famille, se loger, éventuellement disposer de certaines choses. Et nous dit le Pirkei Avot, toutes ces choses-là dont nous voulons disposer appartiennent à Kadosh Baruch Hu. Tous les besoins auxquels nous voulons qu'ils soient pourvus dépendent de choses dont Akadosh Baruch Hu est l'unique propriétaire. L'argent appartient à Akadosh Baruch Hu, les biens matériels appartiennent à Akadosh Baruch Hu, les biens spirituels aussi. Si, par exemple, nous donnons à ce moment-là la tzedaka, que nous aidons les kolélim, que nous aidons les yeshivot, que nous aidons les pauvres, que nous donnons de nous-mêmes et que nous donnons ce qui semble être à notre disposition, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu nous donnera ce qui est à sa disposition, c'est-à-dire tout ce dont nous avons besoin. Le Maharam Shik, lui, poursuit en disant qu'il y a également un autre enseignement ici qui vient compléter tout ce que nous avons dit jusqu'ici. L'homme, lorsqu'il s'apprête à pratiquer les mitzvot, a souvent l'impression, et on devrait dire la fausse impression, qu'il y a en lui deux tendances opposées. Il y a, effectivement, l'homme, le juif, est composé de deux parties. La partie spirituelle, l'âme, que l'on appelle la neshama, et la partie matérielle, que l'on appelle le gouf, le corps. L'impression est que, effectivement, d'un côté, la neshama tend vers le bien, vers ce qui est spirituel, vers la Torah. Elle tend effectivement à se séparer des biens matériels, alors que le corps, lui, tend effectivement de l'autre côté. Il tend vers le matériel, vers les désirs, vers ce vers quoi le portent ses instincts. Et on a donc ici l'impression, il y a effectivement, et ce n'est pas juste une impression, qu'il y a une lutte perpétuelle entre ces deux tendances. Le bien, animé par la neshama, on pourrait dire, et le mal qui apparemment, là je dis bien apparemment, semble être animé par le corps. Et donc on a l'impression que l'un doit sacrifier l'autre. Si l'on tend vers le mal, alors c'est le corps qui sacrifie les besoins de la neshama, et si l'on va vers le bien, alors c'est le contraire. Ce serait la neshama qui sacrifierait les besoins du corps. Ceci, nous dit le Maharam Shik, c'est complètement faux. Il n'y a pas une antinomie entre les besoins de la neshama et les besoins du corps. Il n'y a pas nécessairement une antinomie entre les besoins spirituels et les besoins matériels. Torah sotri la tag milutrasadim ve sofag milutrasadim. La Torah est faite pour le bien de l'homme. La Torah est faite pour le bien du juif. Elle est faite pour satisfaire aussi bien sa neshama, son âme, que son corps. Elle est faite pour que l'homme puisse jouir aussi bien d'un point de vue spirituel que d'un point de vue matériel. Tout ce que la Torah nous demande, c'est de ne pas céder entièrement à nos instincts et d'aller sur la voie de la raison que nous montre la neshama. À ce moment-là, lorsqu'on ira sur la voie de la raison, qu'on se dirigera vers Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu fera en sorte que sa volonté soit identique à la nôtre. Il pourvoira non seulement à nos besoins, aux besoins de la Neshama qui s'élèvera et qui se rapprochera d'Akadosh Baruch Hu, mais il pourvoira également aux besoins de notre corps. Il n'y a pas ici de contradiction, il n'y a pas ici une antinomie, il n'y a pas ici un conflit entre le corps et l'âme, on croit que l'un doit sacrifier l'autre et que tout le but de l'avoda d'Akadosh Baruch Hu, tout le but de la pratique des mitzvot est de sacrifier ce qu'il y a en nous de matériel, de sacrifier notre corps pour un autre besoin. La Torah ne nous demande pas de nous sacrifier, elle nous demande de subir, de surmonter certaines épreuves et si on y arrive, alors on n'aura rien sacrifié du tout. Au contraire, on pourra... Et à la fois parvenir à certains sommets spirituels et en même temps pouvoir faire en sorte que notre corps, qui a lui des besoins purement matériels, puisse jouir de la direction que nous avons prise. Cela se trouve dans le but même de la création. Le but de la création est de faire du bien à l'homme, de faire du bien aux juifs, de faire du bien à toutes les créatures. Et il n'y a donc aucune partie en nous, malgré les impressions que l'on pourra avoir de prime abord, qui doit être sacrifiée pour d'autres parties. En vérité, tout est harmonie et tout va vers le bien. Il faut seulement que le juif, que l'homme décide d'aller vers le bien et surmonte en lui ses penchants ou certains faux raisonnements qui le pousseraient à aller de l'autre côté. Nous dit ici le Pirkei Avot, Al Kifrosh Min HaTzibur. Ne te sépare pas du Tzibur, ne te sépare pas du public, ne te sépare pas du Klal Israël. Il y a ici deux enseignements que l'on retrouve dans le Meiri, et qui, sans se contredire, se complètent l'un et l'autre. Le premier enseignement que nous rapporte le Meiri, c'est le suivant. Ne te sépare pas du public, ne te sépare pas du Tzibour, en ce sens que si effectivement le public, le Tzibour, va dans un chemin qui est le bon, qu'il pratique les mitzvot, qu'il s'adonne à l'étude de la Torah, alors bien évidemment, ne fais pas autrement qu'eux. Ne sois pas différent d'eux. Si effectivement tu te trouves dans un public qui s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu, qui va dans le mauvais sens, dans la mauvaise direction, alors effectivement, à ce moment-là, tu dois d'abord essayer de les amener à se corriger, de les réprimander, ce que l'on appelle dans la Torah la mitzvah de Torahra, et si tu n'y arrives pas, à ce moment-là, coupe, éloigne-toi d'eux. Ne reste pas avec des gens qui ont décidé d'aller dans une mauvaise direction, de peur que tu sois, bien entendu, influencé par eux. Mais si, au contraire, ils vont dans une bonne voie, alors reste avec eux. Fais comme eux, reste avec eux et va avec eux. Il y a, on pourrait dire ici, une évidence. Que vient nous enseigner le Pirkei Avot lorsqu'il nous dit effectivement que si le Tzibour, si effectivement la communauté ou la collectivité au sein de laquelle on est installé va dans la bonne direction, alors fais comme eux. Sois avec eux, ne te sépare pas d'eux. Pourquoi effectivement te séparerais-tu d'eux? Que vient donc ici nous enseigner le Pirkei Avot? En vérité ici, Rav David Azoulay, dans son commentaire sur le Pirkei Avot, nous explique la signification profonde de cet enseignement. Lorsque le Pirkei Avot nous enseigne ici, il vient nous dire, il vient en vérité nous éviter de tomber dans un piège. Dans le piège que l'on pourrait dire, que j'appellerais entre guillemets le piège de l'ermite. On voit en effet que dans toutes sortes de religions très très éloignées du judaïsme, chez les goyim, on voit très souvent que la tendance à la spiritualité, la tendance à aller vers Akadosh Baruch Hu va de pair avec une certaine volonté de s'isoler, de se retirer, de ne plus avoir contact avec les gens qui sont autour de vous, comme si le fait même d'avoir contact avec les gens qui vous entourent était par essence quelque chose de négatif, quand bien même ces gens-là seraient des gens bien. Ici, nous dit Rav David Azoulay, le Pirkei Avot vient nous enseigner exactement le contraire. Si tu t'imagines que pour travailler à Kadosh Baruch Hu, que pour servir à Kadosh Baruch Hu, tu dois t'éloigner de tout le monde de manière à ne jamais être influencé par eux, et puis tu dois vivre comme une espèce d'ermite, alors sache, nous dit le Pirkei Avot, que comme cela, tu n'arriveras nulle part. Ou plutôt, tu feras exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Effectivement, la pratique des mitzvot, pour être complète, demande effectivement que l'on soit avec l'autre. Sans l'autre, sans la confrontation avec l'autre, où on pourrait dire, si je ne me trouve pas avec les autres, alors à ce moment-là, je n'aurai jamais une pratique des mitzvot qui est complète. Je n'aurai même pas de pratique des mitzvot du tout. Le Chofetz Chaim, dans Avot Chesed, nous dit que l'homme a besoin de l'autre du début de sa vie jusqu'à la fin. Déjà au moment où il naît, il a besoin de la sage-femme, n'est-ce pas, pour le sortir du ventre de sa maman. Ensuite, il aura toujours besoin de l'autre. Lorsqu'il sera triste, qu'il aura des moments difficiles dans la vie, alors il aura besoin de l'autre pour le consoler. S'il veut être joyeux et connaître des bons moments, on ne connaît jamais de bons moments réels quand on est seul. Là encore, on a besoin des autres pour être joyeux. Si l'on est pauvre, alors on aura besoin de l'autre pour qu'il vous aide, pour qu'il vous donne la tzedaka, pour qu'il vous aide à pourvoir à vos besoins. Si même quand on est riche parfois, et puis qu'on se lance dans toutes sortes de business, on peut avoir besoin de l'autre pour vous prêter de l'argent. Il n'est pas jusqu'à la mort, une fois qu'on n'est même plus sur cette terre, où on a encore besoin de l'autre pour vous porter en terre et vous amener dans le Kever Israël. C'est là, bien entendu, sans parler de la Torah qui, elle, ne peut réellement s'étudier et ne peut réellement s'enseigner sans qu'on ait un rabbin qui nous enseigne, sans qu'on ait un talmid à qui on enseigne, sans qu'on ait une chevruta avec qui on étudie. Donc, dans notre vie, à tous les moments, à chaque instant, on a besoin de l'autre. Mais cela a aussi une autre, et également une conséquence inévitable. De même que l'on a besoin de l'autre, l'autre a aussi besoin de nous. Et cela fait partie intégrante de la pratique des mitzvot. Et c'est seulement en accédant aux besoins de l'autre qu'on peut réellement arriver à la shlemut, qu'on peut réellement arriver au Adam HaShalem, à l'homme parfait ou à l'homme qui tend vers la perfection tel qu'Akadosh Baruch Hu l'exige de nous. L'un des 13 articles de la foi du Rambam de Maïmonide est qu'il n'y avait pas au-dessus de Moshe Rabbeinu. Or, lorsque le Passouk s'exprime en ce qui concerne Moshe Rabbeinu dans la Torah, l'une des premières expressions qui revient dans la Torah en ce qui concerne Moshe Rabbeinu, c'est « Veyar et Tsevel Echav ». Il vivait dans la cour de Pharaon, rien ne le prédisposait à aller vers ses frères, rien ne le prédisposait ne serait-ce que par la vie qu'il avait, lui qui était au sommet de la pyramide, n'est-ce pas, qui était au sommet de l'Égypte, rien ne le prédisposait à se rapprocher de ses frères et à sentir leur douleur. Or, quelle est la des premiers psukim lorsque la Torah nous parle de Moshe Rabbeinu, elle nous dit « Veyar et Tsevel Echav ». Il a vu, comme si cela faisait partie de lui-même et de sa vie, il a vu la souffrance de ses frères. Le Midrash nous dit que Moshe Rabbeinu, alors prince à la cour de Pharaon, descendait vers ses frères pour les aider à porter les briques qu'ils étaient astreints de transporter. Cela, c'est un exemple de la pratique des mitzvot qui nous montre jusqu'où on doit aller pour arriver plus haut. Et cela, c'est avant tout l'enseignement des Pirkei Avot. Le deuxième enseignement que l'on retrouve ici et que le Miri nous signale également, lorsqu'il nous dit de ne pas nous séparer du tzibour, c'est que l'on doit également participer à ses douleurs, à ses peines, et rester avec lui, quand les circonstances l'exigent. En d'autres termes, lorsqu'on voit que le clan Israël, lorsque l'on voit que le peuple d'Israël est dans une situation difficile, qu'il doit faire face à de lourdes épreuves, qu'il est parfois en danger, alors ici nous enseigne le Pirkei Avot de ne pas essayer de se séparer lui. Chacun pour soi, j'essaie de m'en tirer comme je veux, bien entendu. S'il y a un cas de piquoire nefesh et que je suis obligé pour sauver ma vie de faire certaines choses, c'est une misva pour moi de sauver ma vie. Mais tu ne dois pas avoir une attitude première lorsque le clan Israël se trouve dans des difficultés, parfois en danger. Ton attitude première ne doit pas être, sauf qui peut, c'est-à-dire chacun pour soi, moi je me débrouille. Tu dois participer à cette aventure, je dirais. Tu dois rester solidaire du clan Israël. Tu dois rester solidaire du peuple juif et rester avec lui-même dans les moments difficiles, ne pas t'échapper, sauf bien entendu si ta vie est en danger, rester avec lui autant qu'il le faut, l'aider à supporter ses souffrances, et seul celui qui se trouve avec le public, avec le peuple juif dans ces moments de souffrance, pourra lui aussi connaître la libération, la prospérité, le bonheur, lorsque enfin le peuple d'Israël vivra des moments meilleurs. Nous dire à Israël, Salanter, que c'est l'un des meilleurs moments d'ailleurs, c'est l'une des meilleures manières de passer le din au moment de Rosh Hashanah, au moment où nous sommes jugés, c'est de nous trouver avec le Klal Israël. À chaque moment, au début de l'année, nous sommes jugés. Nous ne savons pas ce qu'Akadosh Baruch Hu va décider de nous. S'il va le décider que l'on pourra continuer à vivre, ou si, au contraire, Dieu préserve, on sera retiré de cette terre. Comment donc s'en tirer? Dire à Israël Salanter qu'aucun individu n'est assuré de vivre, aucun individu n'est assuré de survivre et de réussir le din. Mais le Klal Israël dans son ensemble, en tant que collectivité, lui est oui assuré de passer le din. Et lui assuré de survivre jusqu'à de meilleurs moments. Et nous dire à Israël Salanter, plus nous, en tant qu'individus, nous nous intégrons au Klal Israël, nous nous intégrons à lui, nous restons solidaires de lui de manière à faire partir intégrante de ce clan, plus à ce moment-là, nous sommes nous-mêmes assurés de passer le din, de survivre et de continuer jusqu'à ce que nous connaissions effectivement de meilleurs moments lorsque le clan Israël, lui aussi, pourra accéder à de meilleurs moments lui aussi. Nous dit ici la Mishnah dans le Pirkei Avot, ne crois pas en toi-même. N'aie pas confiance en toi jusqu'au jour de ta mort. Nous dit ici le Rabbi Nouyona, de la manière la plus simple. Ne t'imagine pas que parce que tu as réussi à surmonter ton yatser, à surmonter tes mauvais penchants pendant quelques jours ou même pendant quelques mois, et tu as réussi pendant toute cette période à ne pas fauter, que tu as définitivement vaincu le yatser hara et que tu ne fauteras plus et que tu peux enfin te reposer de ton yatser. C'est cela, nous dit Rabbi Nouyona, que vient nous enseigner leur Pirkei Avot. Ne te relâche jamais. Jusqu'au jour de ta mort, sois méfiant. Et les commentaires ici nous donnent l'exemple de Rabbi Yochanan, Kohen Gadol, qui pendant 80 ans était le Kohen Gadol, le grand prêtre d'Israël, et après avoir servi pendant 80 ans, il est tout à coup devenu un tzedoki. Il est tombé dans l'hérésie et a nié l'existence de la Torah orale, ce qui effectivement, au regard de la Torah, est l'une des fautes les plus graves. Donc on voit ici un homme qui, pendant 80 ans, était le grand prêtre, celui par qui passait Am Israël pour accéder à la Kapara, pour accéder au pardon le jour de Kippour, lorsque le Kohen Gadol, lorsque Yohanan rentrait dans le Saint des Saints. Et voilà qu'après 80 ans de service, tout à coup, Rabbi Yochanan, le prêtre Yochanan Kohen Gadol tombe dans la faute et dans la pire des fautes. Il devient soudain un hérétique, une faute, l'une des plus graves qui est énumérée par la Torah. Nous avons en vérité ici un enseignement. Nous avons ici un enseignement. Qu'est-ce que le rachat? Qui est le fauteur? On s'imagine toujours que le fauteur, c'est celui qui va aller dans le mauvais chemin, qui a décidé de manière consciente à se révolter contre Akadosh Baruch Hu et à ne faire que des avérot et pas des mitzvot. On peut effectivement trouver ce genre d'individu, n'est-ce pas, dans le monde. On peut même trouver tous les genres d'individus. Mais la majorité des gens qui sont tombés dans la faute, la majorité des gens qui sont tombés dans le péché, ne sont pas tombés dans le péché parce qu'ils ont décidé sciemment de fauter. La plupart des gens sont tombés dans le péché, ils sont tombés dans la faute tout simplement parce qu'ils n'ont rien décidé du tout ou parce qu'ils étaient inconscients. Le fait de ne pas être conscient, le fait de ne pas être sur ses gardes, c'est la porte royale qui nous mène vers la faute. C'est la porte d'entrée à toutes les avérotes. Et cela nous indique comment est-ce qu'effectivement on doit travailler à Kadosh Baruch Hu, comment on doit effectivement le servir et pratiquer les mitzvot sans tomber dans le piège de la faute, en étant conscient, constamment sur nos gardes. Mais ça veut dire quoi être conscient et être sur nos gardes? Ça ne veut pas dire tomber dans une espèce de parano, n'est-ce pas, ou d'avoir une espèce de peur excessive ou irrationnelle de la faute. Celui qui fait comme ça, il tombera dans la faute encore plus facilement que les autres. Conscient, ça veut dire toujours être en train de réfléchir, proche de la réflexion, proche de la raison qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée, et toujours essayer de se retourner, de voir si effectivement on est assez, on est assez conscient de ce qu'on fait, on est assez précautionneux, est-ce qu'on fait ce qu'il faut faire. Cela, c'est la clé de l'Avodat Hashem. Cela, c'est la clé de la pratique des mitzvot. Et nous dit à ce moment-là, Rabbeinu Yona, que cet enseignement des Pirkei Avot est directement lié à l'enseignement suivant. Que nous dit effectivement l'enseignement suivant ? Ne juge pas ton voisin jusqu'à ce que tu ne sois pas à sa place. En quoi cet enseignement est lié à tout ce que nous venons de dire ici ? Eh bien, Rabbeinu Yona nous explique très simplement. Ça veut dire quoi ? Ne juge pas ton voisin ou ton camarade ou ton prochain jusqu'à ce que tu sois à sa place. On le voit dans certains, on voit notre voisin ou notre prochain tomber suite à certaines circonstances. Alors on se dit, oh là là, si moi j'avais été à sa place, je ne serais jamais tombé dans le piège. Moi j'aurais passé le coup, j'aurais passé l'épreuve, j'aurais jamais fait toutes les bêtises qu'il a fait. Ça, c'est l'attitude de celui qui n'est pas réellement conscient de ce qu'il est. De celui qui ne sait pas réellement d'où il en est. De celui qui, effectivement, s'imagine avoir gagné définitivement son Yatserara et qui est au-delà de, qui est au-delà des flèches que pourrait nous lancer le Yatserara. Du moins, jusque dans certaines limites. Dans les limites où le prochain, lui, est tombé. Et c'est là que vient nous dire le Pirkei Avot. C'est là qu'il vient nous avertir, nous dire, ne t'imagine pas que tu aurais été meilleur. Méfie-toi de ton Yatserara jusqu'au jour de ta mort. Sache que jusqu'au jour de ta mort, même quand tu crois avoir vaincu définitivement Yatserara, tu peux toujours tomber comme ton camarade est tombé. Et peut-être que si tu avais été dans ces circonstances, dans les circonstances où lui a été, non seulement tu ne te serais pas conduit mieux que lui, mais peut-être que tu aurais été pire encore que lui. Cela ne vient évidemment pas excuser notre prochain. Cela ne veut pas dire que si lui est tombé dans les circonstances où il se trouvait, il a eu raison. Chaque fois que Kadosh Baruch Hu nous passe, nous met devant une épreuve, nous met en face d'une épreuve, il nous donne toujours les moyens de surmonter cette épreuve et de ne pas tomber dans le piège du Yatserara. Et comme nous ne devons pas tomber, notre prochain n'aurait pas dû tomber non plus. Donc ici, on ne vient pas excuser le prochain. On vient juste nous dire, ne t'imagine pas que là où lui il est tombé, toi t'aurais passé et tu serais mieux conduit que lui. Là encore, le Pirkei Avot nous appelle à être conscient de ce qu'on fait, conscient de nous-mêmes, conscient de là où on en est. Et c'est cela la base de l'Avodat Hashem. C'est cela la base de la pratique des mitzvot. Nous dit enfin le Pirkei Avot dans cette Mishnah, ne dis pas une chose qui ne doit pas être entendue, parce qu'à la fin, elle devra être entendue. Il y a ici plusieurs commentaires qui sont ramenés, et moi je voudrais ramener un commentaire particulier. Et selon effectivement certains Rishonim, ce dont nous parle ici le Pirkei Avot, c'est du secret que notre camarade nous transmet et qu'il voudrait qu'on garde. Il voudrait qu'on en parle à personne. Ici, là encore, le Pirkei Avot vient nous avertir en disant les secrets de tes camarades ou les choses que toi tu sais sur ton camarade et que tu ne voudrais pas qu'elles soient sues, n'en parle à personne. Ne tombe pas dans le piège d'en parler à quelqu'un en s'imaginant que ce quelqu'un est un monsieur de confiance et qu'il n'en parlera à personne d'autre. Les commentaires vont plus loin. Ils disent, même quand tu es seul, ne parle pas avec toi-même à voix haute du secret ou des choses que tu ne voudrais pas ou que ton camarade ne voudrait pas qu'elles soient sues. Parce qu'à la fin, ainsi que la Gemara Baba Batra nous dit, viendra l'oiseau, il transportera ta voix et il fera que tout ce que dont tu parles, même si tu en parles seul quand tu es avec toi-même, sera connu. À plus forte raison, lorsque tu en parleras à ton prochain, même si c'est un prochain en lequel tu as confiance. Là encore, cet enseignement est quelque part lié avec tout ce qu'on vient de voir jusqu'ici. Qu'est-ce que nous a dit l'un des enseignements précédents que l'on venait de voir ? N'aie confiance, n'aie pas confiance en toi jusqu'à ce que tu meurs. Sache qu'à chaque moment, le Yatserara est là, il est présent, il peut te faire tomber si tu te relâches, même quand tu ne t'y attends pas. Cela, c'est une attitude générale dans la vie, non pas une attitude de méfiance excessive, mais comme on l'a dit déjà, d'être conscient de ce qu'on fait, d'être conscient des choses, de ne pas non plus avoir une confiance excessive dans les gens et évidemment dans nous-mêmes, en s'imaginant que, effectivement, ici, on pourrait parler de choses qui ne doivent pas être entendues, en se disant, oh, finalement, j'en parle à celui-là, il n'en parlera à personne. Sois conscient de ce que tu fais, sois responsable de ce que tu fais. Et c'est comme ça que tu connaîtras la bracha et que Akadosh Baruch Hu t'aidera et que tu monteras vers dans les voies de la Torah et dans les voies d'Akadosh Baruch Hu. Le dernier enseignement que nous voyons ici dans cette Mishnah nous dit la chose suivante. Ne te dis pas, quand j'aurai le temps, à ce moment-là, j'étudierai. Parce que peut-être que tu ne le trouveras jamais ce temps. En d'autres termes, qui nous dit, qui nous assure que parce que maintenant je n'ai pas de temps, alors j'en aurai plus après. Peut-être que de la même manière dont je suis occupé aujourd'hui, je le serai également demain, et ce pourrait être ainsi jusqu'au dernier jour de ma vie. Donc, à quoi nous invite ici la Mishnah ? Tout simplement à affronter les besoins d'aujourd'hui, à nous aider à surmonter l'épreuve en la face de laquelle nous nous trouvons, et à trouver malgré tout, malgré les circonstances, le temps nécessaire, le temps qu'il faut pour nous livrer à l'étude de la Torah. Parce que si on ne fait pas l'effort maintenant, il n'y a aucune raison que l'on soit capable de faire cet effort dans plusieurs jours, dans plusieurs années, ou même dans 20 ans. Il faut donc, dès le départ, trouver le temps nécessaire, quelles que soient les circonstances, pour se livrer à l'étude de la Torah, au point de faire de l'étude de la Torah l'essentiel de notre vie, l'essentiel de notre journée et l'essentiel de nos préoccupations. Raphaïm de Volozhin, ici, nous rajoute un enseignement très intéressant. Il se pourrait ici que cette Mishnah ou cet enseignement de la Mishnah s'adresse à un autre genre de personne. Non pas à celle qui ne veut pas maintenant s'adonner à l'étude de la Torah parce qu'elle n'a pas le temps, parce qu'elle est trop occupée, comme c'est le cas de beaucoup de gens, mais parce qu'elle ne se sent pas au niveau spirituel. Elle a l'impression, cette personne, n'est-ce pas, qu'elle traîne dans les rues, qu'elle a une vie qui n'est pas, une vie qui non seulement n'est pas exemplaire, mais une vie, on pourrait dire même, qui n'est pas propre. Et elle ne se sent donc pas d'attaque pour étudier la Torah. Elle se dit, comment une personne qui fait des actes aussi impurs que ce que je fais pourrait-elle ouvrir un livre de Gemara, pourrait-elle ouvrir un Chumash et s'adonner à l'étude de notre sainte Torah qui émane de la sainteté, de la Kdusha par excellence. Il n'y a pas de rapport entre moi et cette Torah. D'abord, il faut que je me purifie, que je fasse des actes qui soient un petit peu plus propres que ceux auxquels je me suis livré jusqu'à maintenant, de manière à pouvoir ouvrir un livre sans avoir honte. C'est à celui-là, d'après Raphaïm, nous dit Raphaïm de Volozhin, que s'adresse également la Mishnah dans le Pirkei Avot. Elle dit, n'essaye pas d'abord de te purifier avant de te dire, je vais étudier la Torah. Commence déjà, dès maintenant, à étudier la Torah. Parce que c'est l'étude de la Torah qui te purifiera. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, n'hésite pas, va de l'avant, ne cherche pas des faux ou des vrais prétextes pour ne pas étudier. Ne te dis pas, je ne suis pas au niveau spirituel de pouvoir étudier. Qui suis-je pour aborder un livre de la Torah? Qui suis-je pour ouvrir une Gemara? Regardez où j'en suis, quel rapport entre moi et le livre de la Torah? Je ne suis pas à ce niveau-là, je ne peux pas regarder ces livres en face. Ne tiens jamais ce raisonnement. Ce raisonnement est le raisonnement du Yetzer Hara par excellence. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, vas-y. Lance-toi dans l'étude de la Torah, et cette étude-là, elle te purifiera et elle t'amènera plus loin.